France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Ça veut dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville, Christophe Chassol.
Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus sur France Musique. Bienvenue pour cette émission que j'ai le plaisir de partager le vendredi avec Christophe Chassol.
Bonjour Saskia.
Et puis avec nos auditrices, nos auditeurs qui sont présents ici au Théâtre de l'Alliance Française pour nous accompagner.
Ils sont nombreux aujourd'hui.
Ah, quel plaisir.
Ouais.
Sachez que vous qui nous écoutez derrière votre poste, vous pouvez venir assister vous aussi aux enregistrements. C'est très simple, c'est gratuit. Il suffit simplement de vous connecter sur le site maisondelaradio.fr pour prendre vos places pour une prochaine séance, puisqu'il en reste d'ici Noël. Christophe, Noël.
Oui.
Ben Noël.
Ça vous évoque quoi ?
Ben la famille.
Ah oui, on va en parler de la famille. Encore une fois, c'est un prétexte. Hein,
pour c'est notre thème du jour.
Voilà, notre thème du jour, c'est la famille. Les papas, les mamans, les tontons, les cousins, tout le tintouin. C'est juste un prétexte pour faire écouter des musiques qu'on aime.
Bien, c'est parti.
Oui, c'est parti. Il y a une grande famille, là. Vous allez me parler de plein de rejetons, non ?
Ouais, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de rejetons. La plus grande famille de musiciens du 17e et 18e siècle. Une petite idée du nom de famille, peut-être vous, dans la salle. Monsieur. Bach, bien évidemment, le voici. Jean-Sébastien Bach, ici un extrait de son concerto pour clavecin BWV 1056, deuxième mouvement. Une musique qui vous fait rire, Christophe ?
Oui, oui. Enfin,
Quelles sont les images qui vous viennent en tête quand
je vois un vieux châtelain avec une perruque et un gros point sur la joue, quoi.
Oh, allez, soyons un petit peu plus imaginatifs. Ici, on a un des plus grands musiciens de toute l'histoire de la musique, Jean-Sébastien Bach. Patriarche d'une famille extraordinaire, famille de musiciens. Ils sont plus de 80, imaginez. C'est pas mal quand même. Dont une bonne moitié d'organistes.
Des prénoms composés pour tout le monde.
Ah, il y a un peu de tout. Là, par exemple, on va commencer avec un de ses fils. L'aîné de ses fils, il s'appelle Wilhelm Friedman. Alors Wilhelm Friedman, c'est l'aîné de ses fils, c'est son deuxième enfant et c'est son petit préféré. Mmh. Bon, il bénéficie d'une éducation musicale très soignée, il est très suivi, très accompagné par son papa. Il a des dons exceptionnels pour l'orgue, le clavecin, reconnu bien un petit peu partout. Une grande réputation d'organiste, de compositeur aussi, qui lui permettent d'occuper des grands postes à Dresde, à Halle, en Allemagne donc. Et ça, c'est jusqu'à la disparition de papa, parce que Wilhelm Friedman a une quarantaine d'années quand Jean-Sébastien décède. Et là, ça va un petit peu partir en vrille, malheureusement. Il va se fâcher avec beaucoup de monde, il va abandonner ses postes, il va dilapider l'héritage familial et finir sa vie dans la misère. Cela dit, il en reste des partitions ici qu'on écoute dans une transcription de Jean Rondeau, le claveciniste ici aux côtés de ses musiciens sur ce disque qu'il avait consacré justement à la famille Bach et que je vous propose de continuer à explorer, puisque Wilhelm Friedman n'est pas le seul, c'est le plus méconnu, mais ce n'est pas le seul des fils de Bach. Alors ici, c'est Carl-Philippe Emmanuel.
Il avait trois prénoms, carrément.
C'est un musicien qui a eu, lui, une carrière extraordinaire. Je vous invite vraiment à aller écouter sa musique parce que c'est génial. L'un des joueurs de clavier les plus en vue d'Europe, grand professeur qui a vraiment accompagné énormément de musiciens et qui est un grand défenseur aussi de l'œuvre de son père.
Mais ils sont tous claviéristes ?
Sur les 80 de la famille, il y en a en tout cas la moitié qui sont organistes, c'est vous dire.
Okay.
Donc effectivement, ben voilà, de par la tradition, de par le parcours du papa aussi, forcément, eh bien, il en reste quelque chose. Donc voilà, Carl-Philippe Emmanuel Bach, ici on écoutait un extrait du premier mouvement de son concerto Wodken 23 en ré mineur, qui est absolument magique. Et puis, il y a Johann Christian.
C'est le plus connu des fils.
Alors, c'est une question de point de vue, mais il est quand même assez connu. En tout cas, lui, il a fait une carrière à l'international, ce qui mérite quand même de le souligner, dans le sens où c'est le 18e enfant de Jean-Sébastien. Alors, il y a une petite anecdote que j'aime beaucoup, c'est que Jean-Sébastien avait donné comme habitude à ses enfants de lui jouer un morceau au clavecin pour l'aider à s'endormir. Et il faut savoir que Johann Christian était celui qui parvenait le mieux. Non pas que sa musique soit soporifique, hein, mais parce qu'il avait énormément de talent. Alors on a ici une phrase de Jean-Sébastien qui dit « Mon Christian est un gamin fort sot et c'est pour cette raison qu'il aura du succès dans le monde ». C'est pas mal. Mmh. Eh bien c'est justement parmi les fils de Bach, celui qui a le parcours, la carrière la plus originale. Il va aller s'installer tout d'abord en Italie, il va se nourrir de plein d'influences de ce pays-là. Il va ensuite s'établir en Angleterre, devenir le compositeur le plus en vue d'un compositeur étranger. Donc le plus en vue à Londres, il va fonder une société de concerts. Et ce que j'ai trouvé aussi un peu fascinant dans ce parcours-là, c'est que c'est un novateur dans le sens où il va bien faire connaître un tout nouvel instrument. Il va être le premier à donner un concert sur cet instrument en 1768. C'est le piano. Ici un extrait de sa sonate, opus 17, numéro 6, pas mal, hein ?
Oui, ça a été enregistré en 1768.
Bien sûr, par Daniel Barenboim.
Ok, d'accord.
Pas du tout. Christophe, vous racontez n'importe quoi. Cela dit, c'est intéressant de voir aussi que ses fils, alors voilà, là je vous en ai cité trois, je vous en ai repéré trois, il y en a d'autres, il y a aussi Johann Christoph Friedrich. Il y a aussi le cousin de l'oncle de Jean-Sébastien.
Enfin, bref, mais il n'y a pas de femme.
Vous l'avez compris, bah, malheureusement, à l'époque, on ne leur donnait pas beaucoup voix au chapitre. Cela dit, ses enfants ont été aussi une vraie source d'inspiration pour Jean-Sébastien Bach, dans le sens où vous connaissez le clavier bien tempéré,
oui.
Par exemple. Eh bien, il les a écrits pour ses enfants, ces livres-là.
Il y a souvent des compositeurs qui font ça, là, comme les Microcosmos de Bartok pour son fils.
Exactement, exactement. Alors, vous l'avez compris, difficile de résumer la famille Bach en si peu de temps, mais il y a plein de superbes enregistrements à aller découvrir, et puis aller écouter cette musique en concert.
C'est Jean Christian que vous conseillez le plus. Hein.
Moi, j'aime bien Jean Chrétien, on dit.
Ok, Jean Chrétien.
Mais Johann Christian. Okay. Christophe, vous avez une autre famille à nous présenter.
Oui, une autre famille qui est afro-américaine, qui dans les années 70 a monté un groupe avec ses 9 enfants dans cette famille. C'est la famille Jackson qui habitait à Gary dans l'Indiana, je crois, et qui dès les années fin des années 60 a constitué un groupe avec 5 des enfants. Donc ce sont les Jackson 5. Vous connaissez tous le chanteur Michael, vous le connaissez aussi, Jermaine, Jackie, Tito, Marlon et donc et Michael.
Mais donc pas de femme non plus.
Non, pas de femme. Et d'ailleurs, là, c'est le père qui était vraiment très, 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 très strict, qui les faisait répéter la ceinture à la main, la moindre fausse note, il pouvait les cogner. Donc, un enseignement un peu étrange. Hein. Je suis pas l'enseignement par la contrainte. Moi, j'adore les Jackson 5, vraiment. Je suis pas un fan de Michael Jackson. J'écoute Michael Jackson jusqu'en 83 environ. Après, j'écoute plus. Mais c'est ce qu'il a fait dans les années 70, c'est fantastique. Sa voix, elle me touche tellement. Je me dis qu'on peut pas avoir une voix pareille et être serein, quoi. Parce que son père a dû être tellement derrière lui que c'en est presque douloureux d'écouter, à écouter. Mais c'est tellement beau en même temps, les accords, les grilles d'accords, la voix, tellement haut perché, les chœurs des, les chœurs parlent. On va écouter. On écoute une petite sélection avec Blame It, And the Boogie, ABC, I Want Your Back et Got to Be There. On écoute. Super arrangements toujours partout. Hein. Les chœurs et les cuivres. Maintenant ABC. ABC.
Il a quel âge là ?
Oh, il a, je pense qu'il a peut-être 12 ans. Il est né en 58, Michael. Leur premier album date de 69. C'est Diana Ross présente les Jackson 5. Et ils avaient 4 titres numéro 1 en même temps. Ils ont vendu peut-être 100 millions d'albums. C'est beaucoup, hein. Mais ils sont réussis ces morceaux, hein, vraiment. On va écouter ensuite I Want You Back, Je veux que tu reviennes, qui a été écrit par le père, justement, Joseph Jackson. Ce que j'adore dans ce morceau, c'est la descente, d'accord, écoutez. C'est la nostalgie, ça. Et alors, un morceau que j'adore vraiment, qui s'appelle Got to Be There, vous allez voir. Oh, j'adore ce morceau. C'est là que sa voix me paraît surréelle, surréaliste.
À certains moments, on pourrait presque croire que c'est une femme, une adulte.
Mais oui, complètement. Comme Jamiroquai, quand ça a commencé, je croyais que c'était une femme. Alors, on va continuer à écouter un petit peu. Écoutez comment il monte. Là et là. On peut pas avoir une voix comme ça et être serein comme jeune homme. Et là-haut,
les sopranos coloratours peuvent aller se rhabiller, quoi.
Et il va encore monter, écoutez-moi ça, c'est ce qu'il y a. Avec les frères derrière qui chantent, qui font les chœurs. Encore une fois.
Oh ! Et où est-ce que ça s'arrête ?
Je ne sais pas, c'est ce qu'il y a. Mais alors, je vais vous jouer quand même cette suite harmonique. On va l'écouter quand même, ce qu'il fait. Il nous fait ça. Il dit « I need her sharing the world beside me ». Il dit « I need her sharing the world ». Écoutez là où il va maintenant. « Beside me ». C'est trois accords, mais magnifique, c'est tellement ouvert, c'est des accords ouverts. Et maintenant, réécoutons ce petit passage. C'est pousser la pop musique dans ses retranchements, je trouve ça magnifique. Et alors, j'ai peut-être un autre exemple pour vous de grilles d'accords des Jackson que j'adore, c'est le morceau Never Can Say Goodbye. On l'écoute un petit peu et puis je vous dirai ce que j'aime dans la grille d'accords.
Never can say goodbye. No.
Ah, voilà, la grille d'accord que j'adore, ça se fait, écoutez ça. Pensez à plein de canevas harmoniques. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu? Je vais la jouer, c'est ça. En fait, c'est un ré majeur. Et ensuite, le ré mineur. Et mi sur ré. Mi bémol. Un espèce de chromatisme, mais avec la basse qui reste tout le temps la même. C'est redoutable d'efficacité. Et puis avec la voix de Michael par-dessus, c'est génial. Donc... C'est magique,
quelle
la
beauté.
Pop. Ouais, c'est beau. Ouais,
ouais, on aime bien.
France Musique, Saskia Deville, Christophe Chassol.
Bon, lui, il a pas tué le père, Michael.
Non, c'est ça. J'avais dit, malheureusement. Parler de belle éducation.
Ouais.
Moi, j'ai une superbe histoire de famille à l'opéra à vous raconter. Je sais pas si vous connaissez. C'est l'un des plus grands opéras du XXe siècle, Salomé de Richard Strauss. Petite histoire de cet opéra composé en 1905. Alors, il faut savoir que juste avant, dans l'histoire de l'opéra, juste avant, la mère de Salomé a tué son mari pour pouvoir épouser le roi Hérode. Donc, quand l'opéra commence, on se retrouve face à, eh bien, cette femme, cette reine qui a épousé donc le roi, leur fille Salomé. Ils vivent tous les trois dans le palais royal. Et Salomé est terriblement belle. Elle fait tourner toutes les têtes, celles de son beau-père compris. Mais un homme résiste à son charme, c'est le prophète Yohanan, qui est beaucoup plus sensible à la vertu, à comment dire, au pouvoir de la vérité qu'aux attraits de la jeune princesse. Alors évidemment, cet affront est insupportable pour la jeune Salomé. Et alors que son beau-père, le roi Hérode, lui demande d'exécuter une danse pour lui, elle accepte à une seule condition, c'est qu'elle puisse lui demander tout ce qu'elle veut en échange. Comme le roi a vraiment très 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 envie de la voir danser, il dit oui. Commence alors une danse de 7 minutes. Et voilà, Salomé va commencer à danser. Cette danse magnifique qui est un tube du répertoire de la musique classique. Hein. Vous le connaissiez, Christophe ?
Non, je connais Salomé, mais je ne connaissais pas, non.
Ah,
jamais écouté.
C'est magnifique. Vous le connaissiez, vous, dans la salle ? Non, c'est vrai ? Je suis ravie de vous le faire entendre. On va le garder, d'ailleurs, pendant que je raconte la suite de l'histoire, pour continuer à l'écouter. Mais il faut savoir qu'au moment où Salomé termine de danser, le roi est au comble du bonheur et de l'excitation. Il lui demande alors ce qu'elle veut, puisqu'il lui a promis de lui offrir ce qu'elle voulait. Elle décide, pour se venger de l'indifférence du prophète, vous savez, celui dont elle était tombée amoureuse, elle décide de réclamer sa tête sur un plateau d'argent. Et le roi est tellement sous le charme qu'il cède aux caprices de Salomé. Il exécute donc le prophète et lui amène la tête sur un plateau d'argent. Et cette scène est terrifiante. Salomé dit « Ah, tu n'as pas voulu me laisser embrasser ta bouche, Yohanan. Maintenant, je vais l'embrasser. » Et elle embrasse la tête sanglante, les lèvres de Yohanan qui lui a donc refusé un baiser un petit peu plus tôt dans l'opéra. Alors, le roi Hérode est quand même pas complètement hors du coup, dans le sens où il est tellement choqué qu'il ordonne de tuer Salomé et l'opéra s'achève sur ces soldats qui se ruent sur la jeune princesse pour l'écraser sous leur bouclier. C'est une histoire sympa que je raconte, c'est une bonne histoire de famille. En tout cas, c'est un opéra, je vous l'ai dit, qui a été composé en 1905, qui a fait un tel scandale au moment de sa création, de sa première représentation, qu'il a été même interdit, pendant près de 20 ans à New York, Londres, Vienne, Salzbourg, entre autres, hors de la scène parce que beaucoup trop violent. Alors il y a des fois où ça se passe bien aussi en famille, hein, Christophe.
Parfois ça peut se passer bien. Ouais, j'ai un exemple, vraiment un truc qui me touche énormément, c'est des chansons religieuses indiennes, de musique classique indienne, de musique hindoustani. C'est M.S. Subbulakshmi. Je vous l'avais déjà fait écouter plusieurs fois dans les matinales.
Dans d'autres, quoi.
Ouais. Oui. Et Madurai Subbulakshmi. Alors c'est dur à retenir les noms indiens, mais M.S. Subbulakshmi, S-U-B-U-L-A-K-S-H-M-I. Voilà.
Voilà, tout le monde a retenu maintenant, je suis sûr.
Voilà, tout le monde sait. M.S. Subbulakshmi, cette chanteuse indienne illustre qui a chanté pendant 60 ans avec sa fille Radha Vishwanathan. Pardon. Radha et Madurai, donc la mère et la sœur.
Sur la page de l'émission, sur le site de France. Ouais.
Moi, j'ai découvert ça quand j'étais en Inde, à Varanasi, la plus vieille ville d'Inde, un matin à l'aube, au Ganges View, là, l'hôtel où tous les artistes résident. Et il mettait cette musique et ça m'a transporté. J'écoute ça presque tous les jours maintenant. C'est quasiment thérapeutique. Et donc, elle chante à l'unisson parfait avec sa fille des textes indiens, des Védas, et là c'est un Suprabhatam qui se passe donc à Varanasi, la plus vieille ville d'Inde. On écoute. Ça, j'aime beaucoup cette phrase. Donc on est sur un sol comme ça et on va vous passer la suite. Essayez de distinguer les deux voix ensemble, vraiment. On écoute.
Varanasi purapate kuru suprabhatam Shri kantha kantha dhrita pannaga neela kantha.
On parvient quasiment pas à distinguer.
C'est très impressionnant à quel point c'est précis.
C'est tellement précis. J'ai cet engagement qu'elles ont pour cette musique, ce répertoire, cette musique classique indienne. Moi, il me transporte complètement. J'ai l'impression que c'est un grand bain d'une seule note. Sol, comme ça, et que par-dessus se faufilent deux oiseaux et qui nous racontent l'harmonie, quoi, qui nous racontent le cosmos, et d'imaginer une mère et une fille comme ça qui traversent 6 décades comme ça ensemble, à chanter partout, à chanter pour la première fois à l'ONU, à représenter l'Inde là-bas. Elles m'émeuvent à fond.
Vous nous rappelez les noms de ces deux grandes chanteuses?
Madurai Subbulakshmi, M.S. Subbulakshmi, et sa fille Radha Vishwanathan.
Eh bien, je trouve ça magnifique pour finir cette émission sur le thème de la famille. Merci beaucoup, Christophe. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Et puis, merci à toute l'équipe. Marie Le Peintre, Stéphane Touvenin, Corentin Bailly, Annabelle Toulomé, Éric Lancien, Pauline Boisaubert, et puis nos auditrices, nos auditeurs présents ici au théâtre de l'Alliance Française. À la semaine prochaine. À réécouter sur francemusique.fr.